créateur de la terre, le créateur de la vie.
Amen.
Et on ne s'est pas concerté. Merci les enfants. Voilà. Tout comme on ne s'était pas concerté, même si c'est mon épouse qui préparait sur ce chantage 11, qui mettrait ce verset au premier verset. J'ai écrit ces choses afin que vous soyez dans la joie. Voilà. Donc je vais assurer l'application et en ce temps d'absence, cette année d'absence pastorale, il était décidé récemment de prédicateur. Donc j'assurerai un certain nombre de prédications. Et souvent je vais m'inspirer pour être solide de prédicateurs ou de gens qui ont écrit, ça m'a aidé à construire. Et le thème que je veux voir, c'est ce qui a été le bouleversement de ma vie, c'est Jésus, un ami véritable. Et j'ai adapté cette prédication d'une prédication d'Élie Jaloux, qui est pasteur à l'église évangélique libre de Livron. C'est presque une des églises fondatrices du mouvement des églises libres. Mais il a choisi ce passage, qui est aussi un des premiers passages qui m'a fortement marqué. Donc pour cette première prédication, parce que je fais une série de 12 prédications, je vais rentrer sur vraiment un basique pour nous, même si on va revenir aux bases. Jésus, un ami véritable. Et je vous propose donc de lire dans la parole de Dieu, Jean chapitre 15, les versets 12 à 17. Ils vont s'afficher, mais vous pouvez aussi, je pense, les suivre. Jean 15, 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Thierry a déjà prié et vraiment, on veut vraiment que la parole nous encourage ce matin. Dans ce passage, Jésus nous appelle ses amis. C'est lui qui décide et lui dit « Vous êtes mes amis ». Alors, c'est quoi un ami? C'est quoi un véritable ami? Jules Renard disait qu'un ami, c'est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. Il n'y a qu'à regarder la tête d'un ami quand on est ami pour voir ce matin, il est bien ou il n'est pas très bien. Même au téléphone, le véritable ami dit, mais allez, t'as quelque chose sur le cœur, dis-le-moi. L'ami, c'est donc quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Et Jésus nous appelle ses amis. Une personne avec qui on se sent bien. À la limite, on n'a même pas besoin de discuter. Il dit, je prends juste que sois là. Je pense à des personnes qui peut-être étaient dans cet incendie, qui sont votre ami, qui ont juste d'être là. Avec la personne, c'est un ami. Un ami, c'est aussi quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses, des choses qu'on ne dirait pas à quelqu'un d'autre, des souffrances, des choses qui sont cachées. Et cet ami peut les entendre, il peut entendre ces choses-là. C'est pour ça qu'il est un ami. C'est plus qu'un collègue, plus qu'un copain. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui nous connaît. Il peut même nous dire des choses qui ne vont pas, mais quand il le dit, c'est pour notre bien, par amour. Alors, il y a dans la Bible des exemples, l'histoire d'amitié. Bon, la plus marquante, une des plus fortes, c'est l'amitié de David et Jonathan, c'est dans l'Ancien Testament, qui sont deux véritables amis. Pourtant, elle est vraiment mal partie, cette amitié, puisque le père de Jonathan, le roi Saül, voulait tuer David. Donc c'était très mal parti. Pourtant, il y a une solide amitié. Et le cœur de Jonathan, il a dit, brûlait pour David et David pour Jonathan. Elle était basée sur la confiance, la protection mutuelle, et même après la mort. Peut-être rappeler cette histoire, lorsque Jonathan fut mort, David fit rechercher son fils, qui s'appelait Mephibosheth, car l'histoire en plus était tombée, était boiteux, et il va l'inviter à la table du roi, et il dit, il faut que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan. Vous voyez cette amitié forte que nous donne David. En Proverbe 17:17, on voit un exemple de ce qu'est un ami. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et donc on voit, c'est pour ça que je vous parlais un peu de malheur, c'est quand même dans le malheur, souvent, que se révèle la solidité de l'amitié. Hein? Combien d'amis qu'on a, quand on va bien, on a de l'argent, on réussit, et puis vous êtes malade, vous êtes isolé, qui sont, c'est là, vous voyez les vrais amis. Alors des fois, c'est souvent aussi la famille, mais pas forcément. Donc je ne vous parle pas, moi, d'un conjoint, bien sûr, c'est aussi le rôle du conjoint, parce que le conjoint, il s'est engagé pour la vie, jusqu'à la mort. Mais moi, je vous parle d'un ami véritable. Est-ce que c'est si courant que ça? Un ami, dans la Bible, on voit d'autres amis qui vont porter quelqu'un qui le paralytique, leur ami paralytique, parce qu'ils savent qu'à Jésus, ils veulent le porter. Donc ils font quelque chose pour lui. Voilà un bel exemple d'amitié. Comment nous devons traiter nos amis? Ils nous font du bien, on leur fait du bien. Donc le véritable ami, c'est quelqu'un qui prend soin de nous, et nous, on prend soin de lui. Eh bien, Jésus veut être l'ami de tous. C'est ça qui est fort, c'est lui qui dit. Il nous appelle ses amis. Je bénis Dieu pour cela, pour l'amitié. Franchement, si vous avez la chance d'avoir un véritable ami, c'est une des plus grandes bénédictions, à part, je dirais, un époux, une épouse, et à part Jésus, d'avoir. C'est une grande bénédiction. Et toi, as-tu un ami véritable? Ils sont très rares, n'est-ce pas? Eh bien, ce matin, ce que je veux te dire, et je pense pour beaucoup qui sont là, vous l'avez déjà découvert, Jésus veut être ton ami. S'il n'y a pas d'ami, Jésus veut être ton ami, il veut être ton véritable ami. Car si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'est plus seulement ses disciples, comme on l'a vu dans ce verset, nous ne sommes plus seulement ses serviteurs qui suivent un maître, nous sommes amis de Jésus, comme on vient de le lire, je le rappelle, 15:15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc, on est amis de Jésus parce que Jésus nous révèle le royaume de Dieu, quelque chose qui n'était pas accessible aux hommes. Dieu n'était pas accessible aux hommes. Il est venu nous révéler. Et en plus, ce n'est pas vous qui avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. Il dit, dans ce passage, il est dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous. C'est ça, la révélation. Dieu t'a choisi et il t'appelle son ami. Il te fait connaître les choses de Dieu. Et si on regarde la vie terrestre de Jésus, on voit qu'il veut être l'ami, parce que je peux aller à dire de tous, je vais me risquer à dire qu'il veut être l'ami de tous, en tout cas, des plus détestables. Dans Matthieu 11, on l'accuse. Les pharisiens l'accusent d'être l'ami des publicains, des péagers, des gens de mauvaise vie. C'est ça qui marque les gens qui sont là à l'époque. Lui-même le dit. Le Fils de l'homme est venu, vous dites, mangeons et buvons. Et la suite, effectivement, mangeons et buvons. Mais lui, il est venu, effectivement, manger chez nous. C'est ce qui arrive à Zachée. Bon, Zachée, c'était un collecteur d'impôts, donc il n'était pas très aimé du peuple. Il le voit, il dit, aujourd'hui, je viens manger chez toi. C'est Jésus qui l'a choisi. C'est Jésus qui choisit sa vie, va le changer à toujours. Il dit, après, il va raconter. Il va donner son argent, il va partager avec les pauvres. Jésus est venu manger chez toi. Et que dire de Paul, l'apôtre Paul? n'est-ce pas le plus grand ennemi des chrétiens? N'est-ce pas le meurtrier qui a persécuté, tué les premiers chrétiens au nom de la loi de Dieu? C'est Jésus qui vient et dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Est-ce que Jésus l'a condamné? Qui est-ce qui est allé chercher? C'est Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. Et on connaît l'œuvre extraordinaire dans les temps d'évangélisation de Paul. Dieu nous a aimés comme un ami. Et même Judas qui le trahit. Je lis dans la parole de Dieu, Jésus vient le trahir, et vous savez qu'il l'embrasse pour le trahir et pour le désigner. Jésus lui répondit, mon ami, est-ce que vous avez vu qu'il a dit mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Il n'a pas appelé mon ennemi, il l'a appelé mon ami. Peut-être que Judas aurait eu la possibilité de se repentir en disant, et de pleurer. Un peu comme notre frère nous expliquait sur Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Non, il appelle mon ami. Donc Jésus est venu aimer toutes, surtout, et tous les plus détestables. Et en particulier, nous, toi, moi, alors que nous étions détestables devant Dieu par notre péché. Dieu a en horreur le péché. Mais Jésus est venu vers toi et il te dit, mon ami, je viens manger chez toi aujourd'hui. Il t'invite à la table du roi. Parce que, vous savez, Jésus, Hélène a dit, Dieu a-t-il des sentiments? Oui, Dieu a compassion des hommes. On a vu, il a un moment, il a colère contre les hommes, mais par Jésus, il a compassion pour nos péchés. Mais pourquoi? Parce que le péché nous amène inévitablement à l'enfer éternel. Le péché ne peut pas subsister dans la sainteté de Dieu. Donc, nous sommes détestables aux yeux de Dieu, mais Jésus dit, mon ami, aujourd'hui, je viens manger chez toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie, ce matin, ne sera plus jamais la même. Alors, si Dieu vous a appelé ses amis, je vous encourage à passer du temps aussi avec ceux que la société rejette. Je sais que ce n'est pas forcément, on n'a pas forcément cet appel, mais c'est que certains ont ce ministère, mais ceux que la société rejette, les publicains, les péagiers que décrit la Bible, c'est des gens dont les gens bien pensants ne veulent pas. D'ailleurs, ils rencontrent, on voit bien, une prostituée, mais ils rencontrent aussi une femme adultère. Mais ce qui est une chose, c'est partager avec eux. Écoutez-les, aimez-les, et annoncez le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus fait. Il leur annonce le royaume de Dieu. Nous sommes des petits Christ chrétiens pour annoncer, mais pour partager et écouter et aimer pour annoncer la parole de Dieu. Et Jésus, on les a fait sortir, est aussi l'ami des enfants. C'est beau, non, quand il est l'ami. Lui, le Créateur. Ils vont voir là, le Créateur de la terre, de la vie. Je ne sais pas ce que va dire Christine, mais c'est ça, elle dit. Mais ce Créateur de la vie, il veut aussi être ton ami. Il aime les petits-enfants. Vous savez, quand les petits-enfants étaient pressés par leurs parents, les disciples ne veulent pas qu'ils viennent. Les parents disent à Jésus, ah, on veut que Jésus bénisse nos enfants. Jésus leur dit, viens, amène les petits-enfants. C'est ça, viens les bénir. Alors ils sont là tous autour. Mais Jésus leur dit, non, laissez venir à moi les petits-enfants. En Matthieu 19, 14, Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et c'est vraiment important. Je dirais que c'est un ministère important, mais ce ministère, il est, je profite de le dire, d'abord aux parents, d'avoir reçu cet enseignement aussi, d'enseigner ce que nous avons reçu à nos enfants. Donc c'est vraiment important, s'ils reçoivent dans l'école du monde, de partager notre foi. Donc, si tu es un enfant, beaucoup là, si tu es un grand enfant, Jésus veut être ton ami. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, Jésus veut être ton ami. Jésus est venu d'abord pour le pécheur. Marc 2, 17, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est ça, la compassion de Dieu. Il faut se reconnaître. C'est toi que Jésus est venu appeler ce matin. Alors, je crois que beaucoup ont déjà rencontré Jésus. Que tu sois malade, tu es malade, mais la maladie devant Dieu, la vraie maladie, c'est d'être pécheur devant Dieu. Et toi aussi, moi tu peux, les souffrances que tu peux avoir. Il faut faire attention, parce que nos enfants, on ne sait pas toujours ce qu'ils vivent. D'ailleurs, vous ne savez pas ce que vivent vos frères et sœurs. J'en profite de dire, l'enfant, on sait qu'il y a beaucoup de harcèlement. On parle aujourd'hui beaucoup. Un enfant, toi que personne ne regarde, toi qui es méprisé, toi qui es harcelé à l'école, toi dont on se moque, toi qui te sens seul et perdu, Jésus veut être ton ami. Et c'est ça, il faut accepter, veux-tu accepter cette amitié de Jésus? C'est lui qui veut être ton ami, c'est lui qui t'a choisi. Alors, Jésus peut-il être notre ami? Parce que lui, il dit, je vous appelle mes amis. Est-ce que nous, on peut dire que Jésus est notre ami? En fait, la question n'est pas si facile. Parce que même ses disciples l'appellent maître et seigneur. On peut dire, Jésus, c'est mon ami. Mais il l'appelle maître et seigneur. Thomas, en Jean 20, 28, 29, dit, mon Seigneur et mon Dieu. Car Jésus est Seigneur des seigneurs. Le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, comme il l'explique plusieurs fois. Et donc, en Jésus, on doit aussi reconnaître le Seigneur. Quand on le prie comme le Créateur de l'univers Tout-Puissant. Pourtant, ce Créateur, comme on l'a dit, il t'appelle, il veut être ton ami. N'est-ce pas incroyable? Être l'ami de Jésus... Nous sommes les amis de Jésus, c'est avoir un ami qui n'est pas ordinaire du tout, parce que lui, il est tout puissant. Nos amis terrestres, et je vraiment vous souhaite d'avoir de véritables amis terrestres, ils sont limités. Mais lui, il est tout puissant. Lui, le roi des rois. On peut tout lui dire. Il est un ami, on peut lui dire. Si tu as mal, si tu souffres, si ce n'est pas ton sortir, dis-le à Jésus. Tu ne sais pas sortir de ta situation, dis-le à Jésus. Tu t'es mis dans une situation incroyable, ce n'était pas le plan de Dieu. Dis-le à Jésus ce matin, ce soir. Demande à Jésus, il t'écoute. Et un jour, tout genou fléchira devant lui. Tout lui est sous sa domination. Ne pense pas, tu ne sais pas comment il va faire. Il va te sortir de ta situation. Il va se sortir de sa situation, mais dis-le à Jésus. Confie-le à Jésus. Jésus, roi des rois, oui, mais véritable ami, comme l'a dit Hélène, qui pleure, qui a de la compassion. Il a de la compassion pour vous. Et quand 1 Jean 4, 10, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Eh bien oui, c'est toujours un message révolutionnaire. On va dire que c'était difficile à l'époque de le dire, à l'époque où il y avait d'autres dieux, à l'époque où il y avait les pharisiens. Je peux vous dire que ce message est toujours aussi révolutionnaire pour nos contemporains au XXe siècle. Il est venu mourir à la croix pour pouvoir nous appeler ses amis. C'est ça le message. Jésus est venu mourir à la croix pour t'appeler son ami. Il va t'aider à sortir de ta situation. Si vous êtes là, vous qui avez accepté Jésus-Christ, disons-le à nos contemporains, qui sont dans la souffrance, qui ne servent pas à s'en sortir. Alors, une autre particularité, je vais mettre deux particularités de cette amitié, c'est une amitié qui est exclusive. Et ça, Dieu l'avait averti dans l'Ancien Testament, je vais citer Deutéronome 6, 14 et 15, avec un avertissement très solennel. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il s'exterminerait du dessous de la terre. Dieu a en horreur d'autres dieux. Alors, ça peut être des idoles, ça peut être des idoles que nous construisons nous, ça peut être l'argent, ça peut être la puissance, ça peut être des choses que nous avons qui deviennent, et ça peut être des idoles, on ne se rend pas compte, c'est devenu des idoles. Et cet avertissement qui est tel pour le peuple d'Israël est toujours vrai pour les chrétiens. Jacques nous donne encore un avertissement très très formel en Jacques 4, versets 4 à 5. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, c'est l'exclusivité que demande Jésus. Mais il le fait pour notre bien. Parce que si nous marchons avec des liens du monde, ben en fait, on ne marche plus avec Dieu. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qu'il nous demande en échange. Une exclusivité. Et une troisième caractéristique qui n'est pas trop facile pour nous, c'est un ami qu'on ne voit pas. Quand même, c'est quand même pas si facile que ça. Nous le verrons que dans l'éternité, comme il le dit en Matthieu 23, 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient pour vous du Seigneur. Nous ne le verrons plus, Jésus, c'est ce qu'il dit lui-même, nous le verrons après, à son retour. On aimerait le voir, pourtant Jésus déclare que nous sommes déclarés heureux d'avoir cru sans avoir vu, comme il le dit à Thomas, Thomas, qui a voulu toucher, qui a voulu voir. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors on peut se dire heureux, mais oui, ça demande un effort, car nous ne voyons pas Jésus. Alors, on parle à Jésus. Un ami qu'on ne voit pas, qui est là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas, et pourtant qui existent. Vous pouvez voir une planète lointaine, vous ne la voyez pas, pourtant elle est là. Ben c'est pareil pour Jésus, on ne le voit pas, il existe, on peut lui parler, on peut lui confier toutes choses, on peut tout lui demander, il nous écoute et il nous comprend. Ce matin, c'est ça qu'il est dit dans la suite du 3 du verset 15, il dit bien qu'il nous entend, il dit, et que votre, il dit de rester en lui, afin que vous demandiez tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc il nous écoute. Tu peux tout lui demander. Alors quelles conditions faut-il pour être appelé ami? Est-ce qu'il y a une condition pour être ami du Fils de Dieu, ami de Jésus? Alors vous allez me dire, normalement, un ami ne pose pas de condition. Amitié. D'ailleurs, Jésus dit car il le dit lui-même au verset 1, au verset 1 qu'on vient de dire, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il y a quand même quelque chose qu'il demande. Ce n'est pas une condition, c'est une conséquence. Faites, il nous donne un commandement. Eh bien, ce commandement, il nous le donne deux fois dans ce passage. Quand même, au tout début, au verset 12, je le relis avec vous. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il leur dit en plus à la fin de ce passage, verset 17, donc quand même deux fois dans le même passage, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, il y a une conséquence. On peut pas appeler Jésus son ami, c'est ça la difficulté. Jésus, il nous appelle ses amis, nous, si on veut l'appeler son ami. On ne peut pas le faire si on n'aime pas son frère ou sa sœur. Ça peut être quelqu'un de sa famille, dans l'église, sans aimer son prochain. Jésus me semble être très clair dans ce premier et plus grand des commandements. Il n'y a pas besoin de faire des années de théologie. Je vois pas. Ou qu'il faut revenir à la base. Nous devons mettre en pratique ce que Jésus nous commande. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire, ce n'est pas toujours facile, pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Et ne croyons pas que cela ne demande pas d'effort. Sinon, pourquoi Paul a deux passages, et il y en a plus encore, qui nous donne des exhortations. Je vais citer Colossiens 3,13. Voilà. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi, vous aussi. Et il dit, supportez-vous. Donc ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a un autre passage dans Éphésiens, c'est faites tous vos efforts pour conserver l'unité. Le piège principal qu'utilise Satan, évidemment, est la division, en particulier dans l'Église. Alors le plus important, c'est le pardon, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on a appris dans le Notre Père? On le récite, et cette parole me marque toujours, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et si Jésus nous pardonnait comme ça, franchement, on ne serait pas pardonné. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonnés. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est très pratique. Je vais juste vous remettre sur la base avant d'approfondir. C'est très pratique, c'est très concret. C'est ça qui nous manque cette année, de pardonner aux autres. Et Pierre nous dit en Matthieu 18, 21, 22, Jésus répond à l'apôtre Pierre. Pierre s'approche de lui et il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Mais non, Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je vais te dire qu'il faut pardonner. Et dans ce comment, il y a une espèce d'impossible, parce que Jésus nous dit, vous aimez comme je vous ai aimé, mais lui, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la plus grande amitié, l'ami véritable, il a donné sa vie. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Il nous montre le chemin. Ça serait de donner sa vie pour les autres. Peut-être seriez-vous prêts, pour nous qui sommes parents, j'ai pensé au tout début de donner ma vie pour un ami, si je le donnerais. Il y a des gens qui l'ont fait hein, dans l'armée, hein, il y a des gens qui donnent leur vie, qui ont vraiment un sacrifice pour eux. On le voit. On pourrait faire au plus un sacrifice pour ses enfants, donc parents en général, ses enfants, qui apprendre et donner sa vie. Et bien c'est ça. Ce que Jésus a fait pour nous, frères et sœurs, nous ne pourrons jamais lui rendre. Ni à Dieu, ni aux hommes. Nous ne pouvons qu'accepter cette grâce infinie de Jésus mort pour nous à la croix, alors que nous méritions la mort. Nous ne pouvons que nous repentir de nos fautes et dire merci pour ce cadeau. Alors, il nous faut simplement obéir à ce commandement, à nous, ses amis, de nous aimer les uns les autres. Et nous aimer, c'est dans l'Église, c'est dans la famille. Je vois qu'il y a des déchirements. Vous aimez mon frère, ma sœur, si dans ta propre famille tu n'arrives pas, qu'est-ce qu'il est? Combien d'exemples? Comment finalement notre vie est éprouvée tout simplement dans les couples, hein, dans les familles? C'est difficile. Ce que je vous dis qui semble si simple est finalement difficile. Alors, est-il dans l'église, mais dans le travail, dans l'église locale, quand les gens nous blessent, nous font du mal. Mais, je veux revenir, c'est le seul commandement. Je vous appelle mes amis si vous faites mes commandements. Et voici mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Il nous faut donc nous donner tout entier à Jésus, son sacrifice vivant, et aimer son prochain. Et Paul, l'apôtre Paul, lui qui a été pardonné pour ses péchés, pour ses meurtres, le nom de ses meurtres, il insiste. Il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. On peut avoir la foi, on peut faire des très grandes choses, même pour Jésus. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Il dit, si vous aviez toutes les langues du monde, et vous parliez en langue des anges, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous raisonnez comme une timbale. 1 Corinthiens 13:13, en somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors c'est ça que je voulais vous sensibiliser ce matin. L'amour, c'est le plus grand des commandements. C'est la nouvelle alliance scellée par Jésus à la croix. Désormais, ceux qui le suivent et observent ses commandements deviennent ses amis et deviennent amis les uns des autres. Alors, nous l'avons vu en conclusion et en action. Un véritable ami qui peut tout écouter, tout entendre, tout nous dire sans nous juger, c'est une chose précieuse et rare. Et Jésus t'appelle son ami. Et si tu acceptes son salut par la foi, comme vous l'avez fait, sans l'avoir vu, par la repentance et l'engagement d'une bonne conscience en aimant Dieu, alors, oui, il t'appelle son ami. Peut-être que par nous-mêmes, et oui, par nous-mêmes, nous ne serons pas capables d'accomplir cet amour parfait. Il est trop impossible d'écrire. Mais l'ami véritable, Jésus, lui, nous aidera par son Saint-Esprit. Il le promet de nous aider à, justement, manifester cet amour. Mon message, c'est, et ma conclusion de ce passage, c'est, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, comme je l'ai fait, comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors va, rentre dans ta chambre et demande à Jésus par le Saint-Esprit d'aimer encore plus les frères et sœurs, ceux peut-être que tu n'aimes pas trop, ceux qui t'ont fait du mal. Demande à Dieu de t'aider à pardonner à ceux qui t'ont offensé, à aimer tous ceux que Dieu met sur ta route. Et obéis au commandement nouveau que Jésus avait aussi donné dans Jean 13, 34 à 35. Je ne l'avais pas mis là, mais en Jean 13, 34, 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau pour vous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puisse cela être l'exemple de l'Église évangélique guadeloupéenne pour les amis qui viennent. Un témoignage de l'amour de Christ qui est plus important que tout témoigner pour nos cœurs. Que toutes ces rancœurs passées soient balayées, effacées, l'amour de Christ qui nous a pardonné les choses les plus détestables et que nous puissions rentrer dans cet amour. Et si ce matin, tu cherches encore Dieu, si tu es sur le chemin de la vérité, si tu cherches un ami, un véritable ami, je veux te dire, Jésus t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il est le chemin, la vérité et la vie pour la vraie joie. Il a déjà sacrifié sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Il a lavé tous tes péchés passés. Alors rentre dans ta chambre, prie de tout ton cœur que Jésus se révèle à toi. Et il le fera, ainsi qu'il est écrit en Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À Jésus, à Dieu soit toute la gloire.
Amen.